Bonsoir Internet. Bienvenue dans Besoin de rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kain sur Internet et Clara Beniamine au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui Loïc Fouquet, bonjour.
Bonjour Clara.
Loïc, vous commencez à le connaître parce qu'il a fait quand même un certain nombre d'épisodes. Bref.
Je crois que je suis au cinquième là.
Félicitations.
Ah ouais.
Bienvenue. Loïc a été avocat en droit de la musique dans des cabinets parisiens très prestigieux et aujourd'hui il est musicien dans des groupes de rock batteur professionnel. Avec nous également Clotilde Chalot, bonjour.
Bonjour Clara, bonjour Loïc.
Clotilde, c'est la première fois qu'elle vient nous voir et c'est aussi la première fois que nous acceptons autour de la table avec nous quelqu'un qui n'est pas un avocat ou un juriste mais qui est un professionnel du milieu de la culture. Et Clotilde est à la tête de mon label préféré, à savoir Nomad Music. Et elle est également trésorière de la Fédération des labels indépendants appelée la FELIN.
Eh bien, je dois préciser que je ne travaille pas encore avec Clara, mais merci pour la pub en tout cas.
Ils sont très forts, ils sont vifs, ils sont affûtés. Ils sont tellement brillants que ça fait mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour aborder ce deuxième épisode de notre série consacrée au droit de la musique et intitulée « Du studio aux écouteurs du monde entier ». Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous avions discuté, Loïc et moi, d'un premier sujet dans cette série du droit de la musique qui était « À qui appartient la musique ?». Alors, aujourd'hui, on a envie de poursuivre ce petit voyage avec vous pour un deuxième épisode, mais rassurez-vous, on en a encore au moins deux sous le coude. Bref, pour aujourd'hui, commençons par cadrer un peu notre sujet. Loïc.
Alors, avec un titre aussi énigmatique que du studio aux écouteurs du monde entier, on pourrait parler de plein de choses. Là, on va se concentrer simplement sur les liens qui peuvent unir un artiste, un groupe, un projet musical et son partenaire pour distribuer de la musique enregistrée. Donc on parle encore de phonogramme. Concrètement, on va
Qu'est-ce
parler...
Qu'est-ce que c'est un phonogramme ?
Phonogramme, t'inquiète pas, j'y viens juste après. Et d'ailleurs, on peut réécouter l'épisode 8 qu'on avait consacré justement à l'explication de la différence entre le phonogramme, l'œuvre, etc. Mais...
On vous renvoie effectivement à l'épisode 8, mais tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Il va falloir quand même faire un petit rappel,
bien sûr.
Vas-y, je t'en prie.
Donc concrètement, on va parler des modalités d'engagement d'un artiste avec un label, un distributeur, un partenaire disque, à savoir un partenaire qui va s'engager plus ou moins tôt dans la production, dans la chaîne de production et de distribution du phonogramme. Alors, j'ai pas envie de dire CD parce que bon, ça parle, on parle d'un
le
format.
Compact disque.
Voilà, on parle d'un format qui peut paraître un peu obsolète, mais voilà, on va parler de phonogramme pour
mais
parler d'enregistrement.
Mais qui n'est pas complètement d'ailleurs le voilà, compact disque, on en parlera tout à l'heure, pour le support physique en tout cas.
Voilà, donc bien entendu, là on va parler de musique et de relations contractuelles sous l'angle vraiment industrie. On n'est pas dogmatique, on est conscient qu'il existe d'autres méthodes alternatives aujourd'hui pour distribuer, mettre à disposition sa musique. Il y a beaucoup d'artistes qui sont indépendants, qui sont vraiment dans des esthétiques DIY, donc do it yourself, des réseaux associatifs, donc une espèce de culture alternative. Mais aujourd'hui, voilà, on va vraiment rester sur le côté un peu plus industrie traditionnelle, quoi.
D'accord.
Voilà.
Je peux me permettre que même l'alternative doit être un peu cadrée.
Bien
si
sûr,
justement, on veut éviter de se faire justement que toute notre musique soit rayée d'Internet parce que la police des droits arrive et dit non, mais en fait, t'as pas le droit de le mettre, même si c'est ta musique. Donc, clairement, il y a.
Vous conseiller.
Bien sûr.
Je sais pas, je connais des avocats.
Si seulement je connaissais des avocats.
C'est ça. Mais donc finalement, oui, le cadre est toujours précieux à entendre et à.
Voilà, mais souvent on a des pratiques qui vont commencer à se développer sans cadre juridique et qui après vont être cadrées
bien sûr.
Plus juridiquement, quoi. Donc voilà, ici en tout cas on va aborder les bases de la relation entre l'artiste, le projet et son partenaire disque et on va un peu passer sous silence certains cadres contractuels un peu plus compliqués et surtout on va pas parler d'autres aspects de la carrière de l'artiste comme le live, donc on va pas parler de contrat de tournée, on va pas parler de production de spectacle, ni de droit à l'image, ni de contrat 360,
mais...
Mais je pense qu'on le fera.
il se pourrait que ça soit prévu pour peut-être un épisode d'après. Donc écoutez, restez attentifs à votre flux de podcast. On reviendra là-dessus. Voilà, donc on a fini pour le cadrage. Maintenant, dis-nous Loïc, c'est quoi la musique?
Alors, petit rappel de l'épisode 8. Aujourd'hui, ce qu'on va entendre...
Il y a écrit n'importe quoi sur le conducteur. Donc qu'est-ce que la musique, Loïc? Allez, débrouille-toi.
Voilà, alors qu'est-ce qu'on entend par musique? Souvenir de l'épisode 8,
hein,
il faut se souvenir de la summa divisio, hein, la grande distinction entre droit d'auteur et droit voisin.
9h31, summa divisio, voilà, premier mot en latin.
Premier mot en latin. Et donc la distinction entre l'œuvre et le phonogramme. Donc l'œuvre, c'est la composition et l'écriture du texte. Donc vraiment, on parle de l'œuvre intellectuelle, on ne parle pas de sa fixation sur un support. Elle est régie par... le droit d'auteur, donc le livre 1 du Code de la propriété intellectuelle. Les titulaires du droit d'auteur sont les auteurs et les compositeurs. Et les ayants droit, le partenaire, sur le droit d'auteur, c'est l'éditeur.
On est très schématique parce qu'on essaie de vous donner des illustrations concrètes. Et bien sûr qu'un morceau de musique, ce n'est pas forcément un texte, quelqu'un qui chante et de
bien
la
sûr,
musique
bien
derrière.
Bien sûr, là on est très schématique.
Voilà, là on est très schématique, mais c'est juste pour vous aider à un peu à figurer de quoi on parle. Voilà, et surtout le label de Clotilde, donc Nomade Music, exerce principalement dans la musique classique, qui donc ne répond pas à cette logique de quelqu'un qui chante sur un fond musical. Quoi.
Oui, je sais, j'ai failli vous enlever les micros.
Faites, vous ne la voyez
écoute,
pas, hein, mais là, elle
parce
filmine.
Que vous êtes avocat, vous faites du droit, moi j'écoute, je prends un cours, voilà.
Ah, attention, c'est et
bien
ou,
sûr.
Hein, c'est le et ou, auteur ouais, ouais. et ou compositeur.
Mais la magie de tout ça, c'est qu'effectivement, il y a plein de cas particuliers et
bien
c'est,
sûr, ouais.
c'est intéressant.
Et puis les pratiques varient énormément entre les styles musicaux, donc voilà, ça on en fera une petite parenthèse là-dessus, justement.
Et c'est absolument pour ça qu'on a eu envie de te faire venir, en fait. C'est justement pour que tu fasses ce contrepoint plus pratique.
Ok. Bah, en plus, on fait aussi du jazz et de la musique du monde, donc comme ça, on a un peu tous les cas et on s'amuse beaucoup. Au niveau juridique, c'est très, très drôle chez nous.
Tu donc, l'œuvre.
Donc, ça, voilà, c'est l'œuvre.
On a fait le tour rapide.
Ouais.
Phonogramme, maintenant. Qu'est-ce que c'est le phonogramme? C'est l'enregistrement d'une séquence de sons. Et cette fois, le phonogramme, lui, n'est pas géré par le droit d'auteur. Il est soumis au droit voisin, donc le livre 2 du Code de la propriété intellectuelle. Les titulaires du droit voisin sont les artistes-interprètes en premier lieu. Ensuite, les producteurs phonographiques qui ont un droit propre également. Et l'ayant droit, le partenaire, ça va être le producteur phonographique qui se fait céder les droits par l'artiste-interprète, mais ça va être aussi le licencié, le distributeur, qui bénéficie d'un droit, d'une concession de droit par le producteur phonographique.
Et maintenant, le vif du sujet, à savoir...
signer en tant qu'artiste.
Qu'est-ce que
ça veut dire? Donc on va envisager plusieurs modalités, plusieurs cadres juridiques possibles entre un artiste et son partenaire disque, dans l'ordre d'implication du partenaire. Et on va être, encore une fois, très schématique, et on va prendre trois exemples. On va prendre le contrat d'enregistrement exclusif, le contrat de licence et le contrat de distribution.
Allez, go! Grand 1.
Ah.
le
contrat d'enregistrement exclusif. Alors, ouais. C'est le contrat par lequel, tout simplement, l'artiste ou le groupe est signé, est engagé pour enregistrer un ou plusieurs titres, un EP ou un LP, c'est-à-dire un maxi ou un album,
Merci.
Si on utilise les dénominations françaises.
Uh-huh.
Donc voilà, il s'agit... le contrat d'enregistrement exclusif, c'est un contrat de travail, mais c'est aussi une cession de droit. Une cession de droit voisin de l'artiste-interprète au producteur. Donc, juridiquement, en quoi ça consiste? Donc, comme on le dit, un contrat de travail.
Un contrat de travail, donc.
Voilà.
Là, ici, en quoi ça consiste, ce contrat de travail?
C'est un contrat de travail un peu particulier. Tout d'abord, il faut bien se souvenir qu'il existe une présomption de contrat de travail entre l'artiste et le producteur. C'est-à-dire que, alors une présomption, on rappelle, c'est qu'à défaut de preuve du contraire, le juge considérera l'hypothèse suivante, c'est-à-dire que c'est l'article L7121-3 du Code du travail qui dit, je cite, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, on parle du producteur, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
J'ai rien compris.
Donc, à moins que l'artiste soit réellement indépendant...
Alors, Solène, notre réalisatrice, hoche la tête pour confirmer qu'elle n'a rien compris non plus.
À moins que l'artiste soit vraiment indépendant, en principe, il est engagé par un contrat de travail, une présomption de contrat de travail. Donc ça va être au producteur démontrer le contraire.
Indépendant du coup, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que plein d'artistes vont se dire indépendant. Est-ce que tu peux préciser?
Indépendant, je pense que la jurisprudence va être assez variée sur la question, mais c'est tout simplement, on peut penser aux producteurs, aux artistes de musique électronique qui sont leurs propres producteurs le plus souvent. Et c'est le cas dont on va parler après dans la licence, c'est l'artiste qui enregistre lui-même, qui réalise lui-même son enregistrement et qui livre en fait un produit fini, un master, au producteur directement.
Parce que c'est très dur de parler avec vous, parce que mais si par exemple un artiste indépendant, parce que tous les artistes vont se dire indépendants quelque part, dans la mesure où ils ne sont pas sur une grosse major ou en exclu total, contrat d'artiste sur des années-lumière, sur 14 générations.
En fait, le wording un peu journalistique va souvent être artiste indépendant, à savoir pas signé chez une major.
Voilà. Parce que, en fait,
artiste signé sur un label indépendant, oui, on peut dire qu'il est indépendant, mais là on parle de l'indépendance au sens juridique.
Voilà, et du coup l'indépendance au sens juridique, est-ce que ça ne serait pas par hasard le fait de ne pas être en activité principale, artiste, musicien ou chanteur, pour le Pôle emploi, par exemple?
Pas nécessairement, puisqu'on peut être, un artiste indépendant via sa propre structure et être son propre producteur, en réalité.
D'accord.
Donc, on peut être artiste à titre principal, avoir monté sa propre structure et être indépendant, parce qu'en réalité, on fait tout seul et derrière, on donne à son label juste un produit fini, un master, pour qu'il puisse travailler derrière à la commercialisation.
Mais même si on est indépendant et qu'on a notre propre structure, on peut se faire embaucher par notre propre structure. Dans ce cas-là,
C'est le but.
Auquel cas, le droit est plus fort que tout. Enfin, je veux dire, la clause est bonne aussi.
Oui, c'est-à-dire que le contrat d'enregistrement exclusif, s'il est signé avec l'artiste signe avec sa propre structure, c'est juste une façade pour pouvoir utiliser derrière la personne morale, donc la société qui a été créée à cet effet, pour pouvoir traiter avec ses partenaires. Mais ça, on en parlera justement dans la partie licence.
Je suis tellement contente qu'on puisse enfin avoir quelqu'un qui peut un peu nous interrompre et nous dire « Alors, c'est super, vos trucs. »
Non, mais
moi, tous les jours au bureau.
Je suis désolée.
Mais c'est vrai, quand on dit indépendant, oui, on parle tout le temps de label indépendant, d'artiste indépendant.
Non, un label indépendant.
Oui.
Ce qui présume qu'on n'est pas forcé de payer les gens.
on aime ce genre de pratique.
Non mais oui, c'est sûr, on peut en parler tout de suite.
Il n'y a pas le prix, du coup c'est gratuit. Allez.
C'est pas ça, mais en fait là, ce que vous êtes en train d'évoquer, à savoir le contrat d'enregistrement exclusif, c'est hyper important. C'est un des premiers, et c'est clair moi, pour avoir aussi pas mal d'amis qui enregistrent ailleurs. J'ai eu dernièrement un cas pratique assez intéressant, justement sur l'exclu, où en fait ils étaient en train de signer un contrat d'exclu, mais très long. À savoir qu'il
y avait, il y avait
une date de début, mais il n'y avait pas de fin.
Alors, la prohibition de la cession globale des œuvres futures, Loïc ? Non, pas tout de suite, tout va bien.
Œuvre.
Mais du coup, le point était super intéressant parce que c'était un contrat d'artiste, donc on partait en fait sur un CDI, j'ai envie de dire. Et là, je leur ai dit, mais là, vous signez un CDI, les enfants.
Que le risque, en plus, c'est intéressant de parler de ça, de CDI, parce qu'aujourd'hui, là, le contrat d'enregistrement, c'est pas un CDI, c'est un
CDD.
Non, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de date d'enregistrement.
Mais ça, il y a un vrai risque, parce que derrière un CDI, nous, en droit français, on n'aime pas les contrats perpétuels et on n'aime pas les contrats à durée indéterminée, parce que ça peut être vu comme restrictif de liberté. Et donc, un contrat à durée indéterminée, on peut en démissionner à tout moment. C'est-à-dire qu'un artiste qui est signé en contrat à durée indéterminée, ça n'arrive pas, parce qu'en réalité, il peut sortir quand il veut de son contrat.
Il peut sortir, mais il peut demander un salaire aussi.
En fait,
c'est bloquant pour l'artiste, certes, mais c'est aussi pour le producteur. Le jour où l'artiste est un peu énervé, ou alors dit « Tiens, c'est marrant, je vais faire autre chose, mais par contre, j'aimerais bien avoir mes 10 ans de salaire, là. » Là, ça devient moins drôle pour tout le monde, en fait.
Une nouvelle fois, faites-vous conseiller. C'est
exactement ça.
C'est vraiment pas pour essayer de vous faire de la vente forcée, mais chacun son métier. Moi, je sais pas jouer de la batterie. Alors Loïc, il a la qualité de savoir et jouer de la batterie et lire un contrat. Mais voilà, on a chacun ce qu'on sait faire. Et donc, du coup, vraiment, faites-vous encadrer un contrat. C'est difficile, en fait. Donc nous ne serions que trop vous conseiller de faire appel à quelqu'un dont c'est le métier pour vous conseiller.
Absolument. Revenons à nos moutons. Donc, vous l'aurez compris, l'artiste, il est employé en tant que salarié pour interpréter des œuvres en studio et son interprétation est enregistrée. Il est payé en salaire, mais c'est pas vrai, c'est un salaire un peu particulier puisqu'il est en réalité payé en cachet. Voilà, donc il est payé en réalité à la session. Et il est affilié sous réserve de remplir les conditions en termes de nombre d'heures travaillées, les fameuses 507 heures. Il est affilié au régime des intermittents du spectacle. Et le cachet, il est fixé, le cachet minimum, il est fixé par la convention collective applicable qui est celle de l'édition phonographique. Mais il est possible tout de négocier, comme on négocie son salaire, un cachet supérieur.
Et donc là, c'est ce qu'on a abordé, ce qu'on vient d'aborder, c'est la partie contrat de travail, donc de ce contrat d'enregistrement exclusif.
Absolument.
Mais tu nous as dit que c'était aussi une cession de droits, c'est-à-dire ?
Absolument. Bah, le producteur, il a besoin de se faire céder les droits pour pouvoir exploiter. Donc le contrat de travail, en tout cas le contrat d'enregistrement, va prévoir également une clause de cession de droits. Donc l'artiste interprète cède ses droits sur son interprétation au producteur pour lui permettre d'exploiter. En contrepartie, l'artiste a une rémunération différente de celle du cachet. C'est une redevance, des royalties, une redevance proportionnelle aux revenus générés par l'exploitation de l'enregistrement. Et celle-là est totalement négociable.
Ok.
Donc les droits sont cédés pour la durée de protection de droits, des droits voisins, soit 70 ans après la publication de l'enregistrement, grossièrement.
Okay.
Et on peut avoir éventuellement une avance sur ces redevances, c'est-à-dire que le producteur va donner une certaine somme d'argent en avance de ses royalties à percevoir dans le futur, et c'est-à-dire qu'il va se rembourser de cette avance sur la part de rémunération qui doit revenir en principe à l'artiste.
Ok,
voilà.
D'accord.
Donc ici, quel est le rôle du partenaire? Le partenaire, il est tout d'abord employeur.
Le partenaire, donc le producteur.
Le producteur, il est tout d'abord employeur. Il est surtout juridiquement producteur phonographique au sens de l'article L213-1 du Code de la propriété intellectuelle. Donc c'est la personne physique ou morale qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son. Et en fait, ce régime-là, il va derrière ouvrir, il va donner droit au producteur à son droit propre en tant que producteur phonographique. Son rôle, en principe, c'est de prendre en charge entièrement le financement et l'exploitation de l'enregistrement. Donc, concrètement, il va prévoir le budget, il va rémunérer tous les intervenants. C'est lui qui va être à la base de la production de l'enregistrement. Donc, il va payer tout ce qui est réalisateur artistique, studio, mixeur, mastering, l'artiste pour la pochette, le photographe, et puis aussi tous les intervenants sur le marketing, la commercialisation. Il va se charger de trouver un distributeur, de payer la commission du distributeur sur les ventes.
Le distributeur, c'est-à-dire ?
T'inquiète pas qu'on va en parler. le distributeur, c'est concrètement celui qui va aller mettre les CD dans les bacs ou la musique en ligne auprès des plateformes de vente et de streaming.
Alors, Clotilde fait une grimace et secoue la main
Clotilde
pour dire bof.
Ouais, on coupe ou Non, mais en pratique, on peut être aussi producteur sans pour autant s'avancer sur les droits de pressage. Enfin, sur le pressage, sur le physique, sur même la promo digitale.
Ouais, en fait, on peut te donner en licence après.
Voilà, ouais. C'est ça.
Mais celui qui a à la base la charge de ça. Après, il a le choix, la liberté d'aller prendre un autre partenaire lui-même. Mais en principe, c'est lui qui a la charge dans le contrat avec l'artiste, de gérer ça.
Parce que maintenant, avec les économies qui sont aussi réduites, il y a aussi des fois des producteurs, du coup, on découpe de plus en plus, en fait, toute la chaîne. Mmh. Et il y a l'aspect prod, contrat de prod, et ensuite licence, et on va voir quelqu'un d'autre pour dire, finalement, est-ce que c'est toi qui peux sortir cet album ? Mmh. Auquel cas, un label intervient, alors qu'un producteur...
Il y a des schémas de coproduction aussi, entre différents labels, avec un qui va plus apporter
c'est
l'argent,
ça.
L'autre qui va plutôt s'occuper de l'opérationnel, de l'administration, etc.
Mais du coup, il y a là aussi un gros sujet coprod. Parfois, les artistes se rémunèrent, se débrouillent ensemble, n'est-ce pas ? Mmh. Et le producteur, le coproducteur, je veux dire entreprise, paie effectivement l'ingé son, le studio, des fois les pianos, les studios. Donc ça, j'ai déjà dit. Et donc là, on est en coproduction.
Ouais.
Mais pas oublier de valoriser
ça. Ça se rapproche un petit peu du contrat de licence. Donc d'avoir un partenaire qui est un peu plus indépendant. Donc juste dire sur le contrat d'engagement exclusif que justement il faut bien noter qu'il y a en principe une exclusivité, en tout cas dans les musiques actuelles, mais Clotilde a une expérience différente, pense, en musique classique.
Effectivement.
Et généralement cette exclusivité elle est sur la durée du cycle d'exploitation, soit entre 12 et 24 mois, selon le format qu'on sort. Pour un album, c'est entre 12 et 24 mois.
Cher management de Binge Audio, je voudrais vous proposer que Clotilde nous fasse une émission de 14 heures. On nous raconte,
désolée.
Non,
mais
je t'en supplie.
Mais je trouve ça passionnant.
Parler, c'est génial.
En fait, c'est vraiment passionnant.
Semaines, même quand on parle de littérature, c'est très bien.
Mais je vis ça tous les jours avec justement des artistes, chez nous, avec nos artistes, avec des artistes qui sont donc, je disais tout à l'heure, des amis. Et effectivement, en fait, ce que je leur conseille, ce que tu disais, l'idée, c'est simplement, faut lire les contrats, faut comprendre. Donc ça veut dire que même si on a l'impression d'être pas très content finalement quand on signe en bas, au moins on sait pourquoi. Donc en fait, il faut juste simplement prendre l'effort et faire l'effort de traduire avec une personne qui sait justement traduire tout
ça.
Et justement, cette question d'exclus, si je peux me permettre, même, bon, effectivement, en musique classique, il y a beaucoup d'artistes qui jouent aussi dans plusieurs ensembles, plusieurs orchestres. Donc il est un peu déconseillé de signer une exclusivité. Enfin, ça dépend des cas, hein. Donc je dis ça, mais ça dépend des cas. Après, finalement, musique actuelle également, si vous signez une exclue, faites-le avec le nom de votre groupe et pas le nom de votre personne. Parce que si, par exemple, vous êtes batteur comme Loïc, potentiellement, si vous vous bloquez sur un seul album alors que vous tournez sur plusieurs groupes, il faut vraiment stipuler le nom du groupe.
Non, bien sûr, il faut pas oublier d'exclure éventuellement de l'exclusivité les side projects et les autres groupes dans lesquels on peut officier juste en tant que musicien et peut-être pas en tant que réellement artiste figure du projet.
C'est
quoi.
Ça. Ok, et donc il est temps de passer au contrat de licence.
Alors, contrat de licence, là on est sur un schéma un peu plus libre, c'est-à-dire que la licence, c'est le contrat par lequel l'artiste ou le groupe qui a produit lui-même l'enregistrement va concéder ses droits pour une durée déterminée à un licencié qui va prendre en charge l'exploitation. Donc,
doucement.
Beaucoup plus
doucement.
Simple. C'est beaucoup plus simple que le contrat d'enregistrement exclusif puisque c'est simplement une concession de droits. On n'a pas de contrat de travail entre l'artiste et son partenaire disque. Dans ce cas-là, l'artiste est censé être son propre producteur. Alors généralement, via une structure qu'il aura montée lui-même. Ça peut être une association, ça peut être une société commerciale. Et il est titulaire, via sa société, via son association, des droits de producteur phonographique.
Intervention ?
Non, moi je dis plus rien. Parce
que... Ah non, mais vas-y, là je schématise. Hein.
Oui, bien sûr, mais...
Non, alors, parce que toi, ta pratique, du coup, ça correspond à quoi ?
Sur la licence ?
Oui.
Il y a des gros schémas, à savoir l'artiste producteur qui arrive effectivement, et là, effectivement, on prend tout en charge, tout ce qui est packaging, photo, graphisme, et tout ce qu'on fait. Ouais, la distribution physique et digitale. Après, si on est en copro, bah, effectivement, comme c'est nous l'entreprise, on file là-dessus. Mais en gros, c'est ce que tu dis, hein. Y a pas de...
Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais là, dans ce cas-là, les droits, ils vont être cédés juste pour le temps de l'exploitation. Et en principe, à la fin de cette durée d'exploitation, l'artiste va récupérer l'intégralité de ses droits ou éventuellement prolonger la licence, soit avec le partenaire en question, soit avec un autre partenaire. Et il faut savoir que la durée de licence est totalement négociable. Et là, ça va être assez difficile de donner une durée moyenne, puisque ça va totalement dépendre du style de musique, du type d'exploitation qui est envisagé, etc. Par exemple, en musique électronique, souvent, ça va beaucoup plus vite. Et si on a une licence, parce que les schémas de licence en musique électronique sont assez répandus, parce que souvent, les artistes peuvent produire assez facilement du son de qualité chez eux, eux-mêmes.
Et livrer un truc prêt à diffuser, prêt à commercialiser.
Livrer un master assez, assez facilement. Et donc, on peut avoir des licences qui vont être même ne pas concerner un album entier ou un EP, mais juste un titre. Et dans ce cas-là, on peut avoir des licences qui sont beaucoup plus courtes. Pour un album en musique actuelle... Moi, ce que j'ai l'habitude de voir, c'est entre 15 et 20 ans, 15 et 25 ans, on va dire. Mais t'as peut-être une expérience différente
en musique classique. En musique classique, la vie de l'album est des fois plus courte parce qu'il y a moins de promos, en fait. Donc finalement, sur un album de musique actuelle, pop.
Gros guillemets, très très gros guillemets.
Oui, je suis désolée.
Non, bien sûr. Bien sûr.
Musique actuelle, classique, c'est pareil. Ça peut être musique du monde aussi.
Bien sûr.
Voilà, et musique classique, ça peut être la musique médiévale. Hein.
actuelle
et classique avec des guillemets.
Des guillemets.
Mais du coup, effectivement, on voit souvent un album pop qui est là pendant 5 ans et qui explose à 5 ans ou à 4 ans et d'un coup victoire de la musique la totale alors que finalement l'album tourne depuis 4 ans ça a commencé par la rue des festivals et,
t'as un exemple à nous donner?
Christine the Queen,
okay.
Par exemple. Enfin, l'album a tourné très longtemps. Si vous regardez l'historique sur YouTube, elle chante les mêmes pistes, les mêmes morceaux depuis super longtemps.
Ah ouais. Des bisous à Angelo Follet qui était son producteur. Je t'en prie, continue. Où est-ce qu'on en est ?
Non, mais pour parler de la durée, moi, en musique actuelle, je travaille avec un groupe de musique du monde. Je les ai un petit peu aidés à envisager leur stratégie de carrière. Et ils sont sur une licence de 15 ans pour un album, pour l'album 1. Donc après, une licence avec des options pour album suivant, etc. Donc effectivement, même si on se doute que l'album ne va pas exploiter intensivement pendant 15 ans, le licencié a les droits d'exploitation pendant 15 ans. Et après, libre à l'artiste de continuer à travailler s'il est content du travail du licencié ou d'aller voir ailleurs. Donc, bon, le rôle du partenaire, on l'a un peu évoqué, c'est-à-dire que lui, il va être vraiment chargé de l'exploitation. Et en réalité, ça va vraiment dépendre des schémas qu'il va y avoir entre l'artiste et le licencié. Et ça va dépendre de la négociation et de ce qu'attend l'artiste et de ce que peut proposer le licencié. Donc c'est vraiment très très variable le rôle du partenaire, mais généralement c'est lui qui va vraiment se focaliser sur l'exploitation. Et souvent l'artiste va être impliqué au niveau du pouvoir de décision, et c'est l'artiste producteur, entre guillemets, qui va avoir le dernier mot sur les stratégies et sur la manière d'exploiter. Voilà. Après, concrètement, le licencié, il va prendre en charge la fabrication, la distribution des exemplaires, la mise en ligne, la promotion, et principalement via un distributeur.
Yeah. Alors, donc, est-ce qu'on passe au contrat de distribution?
Je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut un dernier mot sur le système de la licence. Alors, la différence du contrat d'enregistrement, on peut noter que le budget investi par le licencié, il peut être recoupable. C'est-à-dire que le budget investi par le licencié, il peut être considéré comme une avance faite à l'artiste producteur. Et contrairement au contrat d'enregistrement où le budget investi par le licencié n'est pas remboursable, n'est pas recoupable, en licence, on peut avoir un budget qui va être recoupable sur les revenus de l'exploitation, qui peut être remboursé.
Tu es en train de dire que finalement, moi, en tant que label, je dépense pour la photo, le packaging et le pressage des albums, vinyle, tout ce qu'on veut, même la cassette. Et en fait, je peux déduire ces frais-là.
Tu sors des cassettes.
Si tu la négocies, ça va revenir
à la mode. Hein.
T'es mon héros.
Attends, je vais devenir ton héros rapidement, je pense. Et donc, je déduis tout ça des royalties de l'artiste.
Si tu l'as négocié.
D'accord, ok.
Mais c'est possible. Alors que dans un contrat d'enregistrement, c'est pas possible.
D'accord, ok. Donc ça veut dire que je vais rentrer au bureau tout à l'heure et tout le monde est très content. Merci, je suis ravie d'être venue.
Mais après, de toute façon, il y a des systèmes d'abattement qui existent. Ouais. C'est-à-dire qu'en fonction des exploitations, on va réduire la redevance de l'artiste ou du producteur qui a donné en licence. Parce que, évidemment, il y a certains types d'exploitation qui coûtent plus cher. Hein, si on va produire du vinyle ou si on va vendre à l'étranger, nécessairement, ça demande plus de temps, plus de travail, plus d'investissement. Donc, on va réduire un petit peu, puisque la part du producteur, la part du licencié, pardon, va être réduite du fait de ces investissements-là, on peut aussi réduire la part de l'artiste ou du licencié avec un abattement, par exemple, de moins 25% si on produit en vinyle, etc.
Moi, ce que je propose, c'est que, genre, tu vois Loïc, on le met dans un doggy bag, comme ça tu l'emmènes au bureau avec toi.
Je suis super chaud.
Super, je suis pas sûre. Hein. En fait, je vais peut-être pas te devenir ton héros tout de suite.
Non mais comme ça tu peux l'emmener si t'as encore des questions.
Non mais c'est bien parce que du coup il y a plusieurs pratiques. Hein. Ça c'est sûr. Et
en licence, ouais, c'est sûr, c'est hyper variable.
Ouais, c'est très variable et c'est important de le savoir parce que du coup, enfin, pas tout est possible, mais il faut savoir quand c'est possible et pas trop râler quand on se dit que c'est pas possible. Quoi.
Ouais, absolument. Après ce que je dis sur le fait de rembourser le budget, ça peut être dans un schéma de coproduction. C'est la même idée. Voilà. Passons au contrat de distribution.
Allez. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus?
Tout simplement, là, le contrat de distribution, je vais être assez rapide parce que peut-être que Clotilde va nous en parler un peu plus de sa pratique. Le contrat de distribution, classiquement, c'est le partenaire qui prend en charge la distribution et la mise à disposition des phonogrammes, que ce soit en physique ou en ligne. En fait, ça s'arrête à là. C'est-à-dire que le distributeur, voilà. Merci, la semaine prochaine. Voilà. Après, le distributeur, lui, en principe, il n'est pas chargé de la promotion, de la commercialisation, d'aller chercher un partenaire marketing. Lui, il est vraiment dans... C'est le dernier rouage de comment est-ce qu'on fait arriver la musique sur les plateformes, dans les bacs de la FNAC, etc. Quoi.
Oui. Alors, par contre, il est très important.
Il est essentiel, puisque en plus,
il fait un travail phénoménal parce que ne serait-ce que sur une distribution physique, faire en sorte que tout soit prêt au bon endroit à la bonne heure, c'est vraiment très complexe.
Absolument.
Donc, en tant que producteur ou label ou les deux, c'est très difficile de pouvoir gérer tout ça en interne.
Bien sûr.
Après, généralement, c'est des entreprises qui ont été avant label, donc ils savent un peu comment ça se passe. Ils savent très bien comment ça se passe. Tout ce qui est distribution digitale est encore plus complexe, puisque du jour au lendemain, il y a des plateformes qui s'ouvrent, qui se ferment. Donc là, moi, j'ai un contrat de distribution chez un distributeur qui doit gérer 300 plateformes, quoi. Donc, je ne sais pas si je suis vraiment disponible activement sur toutes ces plateformes, mais moi, j'ai intérêt à lui donner toutes les infos possibles des actus artistes, de la promotion, des récompenses, pour que lui puisse justement mettre en avant tout.
Puisse pusher auprès, des plateformes, etc. Même si c'est compliqué aujourd'hui auprès de que ce soit des Spotify, des Deezer, d'obtenir de leur part qu'ils mettent en avant un artiste parce qu'ils sont ultra sollicités, évidemment. Mais c'est le distributeur peut être aussi le porte-parole, on va dire, du label qui attend que. D'avoir un artiste en playlist d'abord, ouais, et puis en tout cas mis en priorité au niveau de l'exploitation. Quoi.
Très important. Et très important aussi, dans tout ce système, il y a aussi des moyens aussi pour produire, qui sont les subventions. Et c'est vrai que sans distributeur, généralement, on n'a pas accès à beaucoup de subventions.
C'est vrai que la distribution physique, avoir un contrat de distribution physique, c'est encore souvent un préalable indispensable à avoir des subventions. Même si je crois que de plus en plus, on peut se contenter d'avoir une distribution numérique. Il me semble que la SCPP, par exemple, peut accepter d'avoir juste un contrat de distribution numérique pour ouvrir droit à subvention phono. Donc, la distribution physique, à ne pas négliger, puisque même si on parle de l'effondrement du format physique, etc., il faut rappeler, d'après le SNEP, donc qui est le syndicat national d'édition phonographique qui regroupe les labels, en tout cas une partie des labels, et notamment les majors, les gros indépendants, que les ventes physiques, ça représente encore un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires de la musique enregistrée.
Je suis tombée de ma chaise quand j'ai lu ça, vraiment.
Et oui. Là, on parle des chiffres 2017,
oui, bon.
Que j'ai récupéré sur le site du SNEP, qui fait un bilan tous les ans de l'état du marché. Et en 2017, concrètement, le physique, c'était 298 millions d'euros de revenus, tandis que le numérique, c'était 285 millions d'euros. Voilà. Et quand on dit numérique, on parle des ventes, mais aussi du streaming. Donc le physique, encore important, le distributeur, encore un partenaire essentiel.
Ok, d'accord. Et du coup, quelles sont les similarités avec le contrat de licence ?
La similarité, ça va être que l'artiste, il est encore une fois producteur, et c'est lui qui va vraiment prendre en charge sa propre exploitation. Alors, si, la différence, c'est que là, pour le coup, il est vraiment totalement indépendant, c'est-à-dire que si un artiste n'a qu'un distributeur, il faut qu'il prenne en charge vraiment tout l'aspect production et l'aspect promotion également. Mais ça peut être un bon système pour un artiste, entre guillemets, indépendant, qui souhaite vraiment de A à Z contrôler sa production et contrôler la vie de son album. Et on a vu de grands succès comme ça fonctionner.
Par exemple,
on a l'exemple de Musicast qui était, depuis qui a été racheté par Believe, mais qui en étant qu'un distributeur, a permis à des artistes comme PNL qui ont tout géré de A à Z.
QLF.
Voilà. de n'être que le dernier rouage. Et en fait, on a des artistes qui réussissent à faire leur carrière en gérant tout de A à Z et en ne prenant qu'un distributeur. Mmh. Ce qui fait que...
Avec des artistes qui ont quand même un budget com qui est assez conséquent.
Ah bien sûr, c'est à eux d'investir.
Tout arrive pas tout seul, bien sûr. Comme ça.
Je voudrais pas balancer, mais peut-être qu'un certain chef d'orchestre contemporain très très en vogue en ce moment est extrêmement fan de PNL. Donc voilà, on balancera pas, mais ça a été l'un des trucs qui m'avait fait le plus rire quand un jour il m'a appelé et qu'il m'a dit « Oh mais PNL c'est trop bien en fait !» Et donc voilà.
Ok, faut que je parle avec lui. Ouais. Après, pourquoi pas, je veux dire, j'ai pas de sujet. Enfin, c'est pas ce qu'on prend forcément comme type artistique dans le label, donc je peux pas.
Écoute, en tout cas, lui, vraiment, ça le bouleverse, quoi.
Bouleverse, ok.
Ouais, il est bouleversé. Bref.
Donc voilà, sur le contrat de distribution, la logique, encore une fois, si on est artiste, entre guillemets producteur, c'est vraiment que on est le capitaine à bord et on mène sa barque. Et si on ne choisit de prendre qu'un contrat de distribution, encore faut-il trouver un distributeur qui soit prêt à s'engager, mais il faut être assez solide et avoir les tripes de s'engager financièrement dans l'exploitation, parce qu'un distributeur, il a évidemment besoin, il attend du producteur des garanties en termes de l'artiste producteur, il attend des garanties en termes de promotion, de financement, parce que le distributeur, il ne va pas non plus de distribuer quelque chose gratuitement à perte. Hein, si il sait que qu'il va y avoir aucune promotion ou très peu ou pas suffisante, il va pas s'engager parce que distribuer un album ou de la musique, ça coûte de l'argent.
Oui, et finalement, c'est un artiste qui effectivement est indépendant dans le sens où il y a que lui qui mettra à bord, mais s'il est mettra à bord, il faut aussi qu'il ait une équipe. Donc encore une fois, faut que c'est un artiste qui est chef d'entreprise et qui a justement, qui monte une structure. En tout cas, il a quelqu'un à la communication, au juridique, et ça devient une entreprise en tant que soi. Donc on peut pas y aller non plus tout seul à la hussarde.
À la hussarde. Ok, alors, je crois qu'on a à peu près fait le tour.
Ouais.
Ouais, c'est bien.
Alors évidemment, encore une fois, c'est très schématique. Oui. Et comme on l'évoquait avec Clotilde, il y a des schémas qui sont très différents, des schémas de coproduction où voilà, on a vraiment un partenariat avec le label qui est un peu plus engageant que la licence. Et on a une distinction des tâches avec vraiment chacun qui a son rôle précis et qui est prévu par le contrat de coproduction. Mais tout ça est négociable et tout ça est très variable. Et évidemment...
Faites vous conseiller.
Voilà, faites appel à des professionnels.
Complètement.
Et pour finir, une des raisons pour laquelle Clotilde est là, c'est donc parce qu'elle représente les praticiens de l'industrie musicale. Et j'aimerais que tu nous présentes un peu ton label en quelques phrases.
Alors, oui.
Oui,
alors,
s'il te plaît. Le label Nomad Music.
C'est l'occasion, c'est maintenant.
Oui.
Alors, Nomad Music, c'est un label qui a maintenant 5 ans cette année.
C'est le jubilé.
Absolument. On attend les autres. Alors, beaucoup de musique classique, jazz et musique du monde. On a notamment au catalogue l'Orchestre National d'Île-de-France, le Quatuor Zaïd, qui va fêter d'ailleurs ses 10 ans cette année avec son album des 10 ans. Faut dire aussi qu'on les suit depuis 5 ans et on a sorti tous leurs albums. Donc, ce qui est magique aussi d'avoir un label depuis 5 ans, c'est de voir que les artistes nous suivent autant que nous, on peut les suivre. Et qu'ils participent à une aventure qui est débutante au début et qui monte assez rapidement. Donc, on a une place qui est plutôt chouette maintenant dans l'industrie musicale. On nous écoute. Aussi, c'est Lymen Daudet au piano, magnifique artiste, donc pianiste. Beaucoup de partenaires, des salles, des festivals, le festival de Pâques d'Aix-en-Provence qui nous a rejoint, pas du tout sur le label, mais sur notre nouvelle application qui s'appelle Nomad Play, qui est une application qui permet à tous les musiciens amateurs et professionnels de pouvoir se substituer à un musicien dans un enregistrement. Donc là, l'idée, si je dois montrer notre ambition, c'est de devenir une sorte de Spotify en multipiste. Donc là, pour le coup, on est plutôt sur le contrat de... On va avoir des distributeurs qui vont nous proposer leur sortie d'album pour qu'on puisse sortir les albums. Du coup, sur ce multipiste, on pourra enlever un musicien et le remplacer avec les partitions et tout ce qui va bien.
Eh bien, merci.
Eh bien, merci à vous.
Merci de nous avoir suivis pour cet épisode de Besoin de rien, envie de droit. C'était donc notre deuxième épisode de notre série sur le droit de la musique. Il y en aura d'autres. Et rendez-vous dans 15 jours pour un tout autre sujet. Binge.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.